Bonjour à tous. Ce matin, je vous invite à lire dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, les versets 1 à 22. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent : Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait : Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit : Voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi comme vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, le redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel : Écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël : Allez-vous-en, chacun dans sa ville. Un moment important de l'histoire du peuple d'Israël. Les anciens d'Israël, ceux qui représentent les 12 tribus, viennent à la rencontre de Samuel, le dernier d'une série de juges en Israël. L'esclavage en Égypte n'est plus qu'un lointain souvenir commémoré chaque année à Pâques. L'errance dans le désert pendant 40 ans a permis à Dieu... L'errance dans le désert pendant 40 années a permis à Dieu de donner sa loi pour le bien de son peuple. Le pays où coule le lait et le miel, la vallée autour du Jourdain, a été donnée aux descendants d'Abraham comme promis par Dieu. La conquête de ce pays a été laborieuse. Beaucoup de combats, de victoires, de défaites, de périodes instables, de crises répétées, alternant avec des moments plus paisibles. Mais le projet de Dieu pour son peuple, dans le respect de l'alliance conclue avec Abraham, avance inexorablement, génération après génération. Chacune des 12 tribus a reçu de quoi subvenir à ses besoins, un territoire ou une fonction au service de la communauté. Chaque clan, chaque famille, chaque individu trouve sa place dans la société. Les lois données par Dieu sont là pour protéger les moins bien lotis, les veuves, les orphelins, les étrangers qui vivent parmi le peuple. Les lois données par Dieu sont là pour rétablir la justice économique et sociale par des dispositions originaux qui empêchent l'accumulation de richesses au profit d'une minorité ou de quelques individus. À ce stade de l'histoire d'Israël qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont des juges établis qui règlent les litiges, qui sont chargés de dire le droit, mettre en œuvre la justice et prononcer les sanctions pour ceux qui enfreignent cette loi. Ce sont également les juges qui prennent l'initiative pour la défense du territoire face aux tentatives de déstabilisation par les forces étrangères. Des juges, il y en a eu, de toutes sortes, des complaisants, des autoritaires, des combattants, des permissifs. Et le dernier verset du livre des juges dit, juge 21, verset 25, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et le résultat n'était pas terrible. Les fils de Samuel, Joël et Abijah, se livraient à l'amour de l'argent, la cupidité, étaient parfaitement corrompus, ils recevaient des présents et abusaient de leur pouvoir en violant la justice. Au contraire de Samuel, qui n'hésite pas à interpeller le peuple sur la façon dont il a exercé sa fonction de juge. Nous lisons au chapitre 12, les versets 3 et 5. Donc c'est Samuel qui s'adresse au peuple, il leur dit encore « L'Éternel est témoin contre vous et son nom est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent « Nous en sommes témoins. » Pardon, je commençais à 3, pardon. Pardon. « Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son nom est témoin en ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Le changement de génération s'annonce mal. À un homme intègre, juste et droit vont succéder des responsables cupides, corrompus et injustes. Les représentants des tribus d'Israël se mettent d'accord pour demander un changement politique. Une nouvelle constitution, une monarchie à l'identique des pays voisins, à la tête desquels on reconnaît un chef politique, propriétaire de son territoire et de ses sujets, dont il dispose selon son bon gré. Exactement l'opposé de ce que Dieu propose à son peuple. Pour le peuple d'Israël, c'est Dieu qui est l'autorité de référence. Le territoire, la terre, les richesses lui appartiennent. Les Israélites appartiennent à un peuple choisi, un peuple élu, avec qui Dieu a conclu une alliance et dont la fonction est d'avoir un comportement conforme à sa volonté pour que cette nation soit le levier du Dieu créateur pour la bénédiction de toutes les familles de la terre, selon Genèse 12, versets 2 et 3. Et voilà la revendication des représentants du peuple. Samuel, ça ne peut plus durer. Établis sur nous un roi. Samuel reçoit la demande avec déplaisir, dit notre texte. C'est pas comme ça que c'est prévu. Mais néanmoins, il entre en dialogue avec Dieu. Et nous découvrons que la situation est bien pire qu'en apparence. En réclamant un roi, un chef pour les gouverner, ce n'est pas le système d'autogestion des juges qui est remis en cause, mais c'est bien l'autorité de Dieu, la loi de l'Éternel. Cette loi qui, à leurs yeux, n'est plus d'actualité. À la lecture du texte, on entend presque les arguments du peuple. On n'a qu'à faire comme les autres. Eux, les peuples voisins, se passent bien de la rigueur de la loi qui date un peu. Ça ne les empêche pas de vivre. Ils font des trucs sympas avec leurs idoles. Ils s'embêtent pas à respecter des tas de règlements contraignants sur la nourriture, les relations sociales, la solidarité familiale, etc. Et du point de vue économique, nous ferons comme tout le monde, le plus fort, le plus malin, exploite et oppresse le plus faible dans la société pour s'enrichir personnellement. Dieu demande à Samuel d'être à l'écoute de la demande du peuple, mais de les prévenir des conséquences prévisibles de l'établissement d'un pouvoir monarchique sur Israël. Le renforcement de l'armée en matériel, en hommes, en organisation, et une bonne partie de la richesse nationale attribuée aux militaires. Les filles perdront leur liberté et deviendront servantes au service du prestige de la cour du roi. La terre qui appartient à l'Éternel sera privatisée au service de la couronne, au détriment des besoins de subsistance de la famille. La main-d'œuvre pour la production agricole sera à la disposition de la monarchie et les impôts vont vous tomber dessus que vous vous en mordrez les doigts. Et lorsque vous vous rendrez compte de la réalité dramatique dans laquelle vous avez vous-même demandé à être, à vivre, vous pourrez toujours faire appel à l'Éternel. Il ne vous exaucera point, verset 17, pour un retour en arrière. Le peuple refuse d'écouter Samuel. Nous, maintenant, on veut un roi. Et l'Éternel cède aux revendications du peuple et demande à Samuel d'établir un roi sur Israël. Le texte de ce jour est éminemment politique. Il s'agit bien de choisir des gouvernants. Il s'agit d'organiser le pouvoir, la défense, la justice, le maintien de l'ordre, l'éducation et le système économique. Dieu donne son avis. Dieu veut une société prospère, paisible, où le droit et la justice s'exercent avec intégrité. Une société où les besoins des plus faibles soient pris en compte, afin que chaque être humain, créé à l'image de Dieu, puisse vivre dignement. Peu de gens, à l'époque de Samuel, comme de nos jours, adhèrent à ce genre de programme politique. Et pourtant, nous appelons dans nos prières la venue du royaume de Dieu, que ton règne vienne. Il s'agit bien d'un royaume, et pas seulement d'un espace spirituel abstrait et imaginaire. Dieu est le roi d'un royaume, et il sera la direction de la nouvelle création lorsque toutes les conséquences de la rébellion des humains à l'origine seront réparées. La Bible parle de la résurrection de nos corps pour habiter cette nouvelle création, pour peupler ce royaume, pour habiter cette cité dont parle l'Apocalypse et où Dieu, notre roi, habitera parmi les humains. En attendant, la revendication du peuple d'Israël pour être gouverné par un roi, comme les peuples voisins, était considérée comme un rejet de Dieu et pas simplement une revendication politique. À chaque fois que les membres du peuple de Dieu cherchent à devenir comme leurs voisins païens, comme les autres, Dieu est éloigné et c'est l'idolâtrie qui envahit le quotidien. Nous sommes tous sensibles à la séduction et aux arguments comme « c'est pas si grave que ça ». Il existe également des gens honnêtes et respectables qui n'entretiennent aucune relation avec Dieu et qui ont l'air de bien le vivre. L'idolâtrie que Dieu exècre nous guette à chaque fois que nous argumentons. Nous sommes chrétiens, membres du peuple de Dieu, mais regardez-nous, nous vivons comme les autres dans la société. Dieu attend de nous que nous soyons pour le moins attentifs à sa loi, si possible obéissants et fidèles, dans le but ultime que notre façon de vivre en tant que peuple de Dieu soit le levier de la bénédiction divine pour toutes les nations de la terre. Si le peuple d'Israël n'avait pas revendiqué un régime monarchique, peut-être aurions-nous pu gagner quelques siècles dans l'avancée du projet de Dieu pour l'humanité. C'est juste une réflexion personnelle, ce n'est pas dans la Bible. Dieu n'oppose pas une opposition de principe au régime monarchique, puisqu'il dit à Samuel d'accéder à la revendication populaire. Mais la façon dont le roi exercera son pouvoir devra être examinée de près. Le premier roi mis en place sur le trône d'Israël, c'est Saül, à qui David a succédé, puis Salomon. Les batailles pour maintenir ou étendre le territoire national se sont succédées. Les rois ont régné et exercé le pouvoir comme prévu. Mais pour autant, Dieu n'a pas renoncé ou laissé tomber le peuple élu. Face au pouvoir du roi apparaissent les prophètes. Non pas les prophètes qui annoncent d'avance ce qui va arriver, mais les prophètes qui ont fonction d'interpeller le roi et son gouvernement, de rappeler le projet de Dieu, de dénoncer les abus, les injustices et les crimes des puissants. Les prophètes au service de Dieu et du peuple qui exercent un véritable contre-pouvoir au pouvoir du monarque. On pourrait citer plusieurs exemples. David, après sa relation adultère avec Bathsheba et après avoir envoyé Uri, son mari, mourir au combat, est interpellé par Nathan, le prophète de l'époque, qui lui fait subtilement prendre conscience de la gravité de ses actes et l'amène à la repentance. Un autre exemple, face à l'idolâtrie d'Akab et Jézabel, Élie annonce la sécheresse et finit par affronter directement et démanteler le culte idolâtre. Dieu garde la main et le contrôle du pouvoir des hommes, quel qu'il soit. La durée du mandat de l'exercice du pouvoir est forcément limitée dans le temps. La corruption, les abus, le manque de justice sont dénoncés par ces hommes ou ces femmes qui ont un rôle de prophète. Le pouvoir les reconnaît et peut même les respecter, tenir compte de leurs avis. Mais la plupart du temps, ils sont menacés, isolés, voire emprisonnés et éliminés. Si l'un ou l'autre est empêché de s'exprimer, un autre se lève. Le mal, l'injustice, la violence sera encore et toujours dénoncé. Il fait partie de notre mission d'enfant de Dieu de rester vigilant face à l'exercice du pouvoir. Nous sommes appelés à approuver ce qui est bien et qui est au service du bien de tous. Nous sommes appelés à dénoncer les injustices, les abus, les mauvais choix économiques dont l'objectif est la concentration des richesses dans la poche de quelques individus. La Bible parle, et nous l'avons souvent entendu, de soumission aux autorités et nous demande de prier pour nos dirigeants. Cela n'empêche pas d'évaluer l'action de nos gouvernements, de nos gouvernants par rapport au projet de Dieu pour l'humanité et à l'enseignement de Jésus, en particulier dans le sermon sur la montagne. L'engagement du Cap, dont on a déjà parlé par le monde, c'est un engagement par le monde évangélique qui a été pris il y a quelques années, et la reprise de certains arguments dans le mouvement irrésistible qui est en route, vont dans ce sens. Notre bulletin de vote nous permet de nous exprimer, aujourd'hui en particulier, même si le candidat idéal n'existe pas. Certains sont moins pires que d'autres, eu égard à la cupidité, la corruption et l'abus de pouvoir, comme les fils de Samuel. Notre liberté d'expression nous permet de dénoncer les injustices, les mauvais traitements infligés aux migrants, les restrictions de liberté sous couvert du besoin de sécurité. Ce texte du livre de Samuel est tout à fait actuel. Il nous parle d'organisation de la société. Lorsqu'on voit que les choses ne vont pas dans le bon sens, juge corrompu, on peut revendiquer un changement. Il ne faut pas faire abstraction du projet de Dieu. Nous pouvons entrer en dialogue, comme Samuel. Dieu donne sa réponse, ses arguments. Il nous révèle également le dessous de nos motivations, comme au verset 7. « Car ce n'est pas toi, Samuel, qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » La réponse de Dieu est détaillée. Voilà ce qui va se passer si vous allez dans telle direction. Et ensuite, il ne faudra pas vous plaindre ou venir me demander de faire quelque chose pour revenir en arrière. Les humains doivent pleinement assumer les conséquences de leurs décisions. Clairement, Dieu a écouté. Il a pointé les motivations de la revendication du peuple qui n'est pas bonne. Et néanmoins, il a accédé à sa demande. Ils veulent un roi à leur tête, ils auront un roi pour les gouverner. Ce texte est plein de sagesse dans la démarche et peut nous être utile dans toutes nos décisions à prendre. Faire un état des lieux, se projeter dans l'avenir, examiner nos motivations profondes, faire un projet avec Dieu ou sans Dieu dans nos vies, imaginer les conséquences de la nouvelle situation. Tout cela en prenant le temps, en écoutant les uns et les autres s'exprimer, comme Dieu lui-même le conseille à Samuel. Au final, Dieu n'est pas opposé au changement. Il demande simplement que dans nos projets, il reste notre préoccupation centrale. Pour conclure, ce récit historique nous montre Dieu à l'œuvre dans le cours de l'histoire et Dieu à la maîtrise des événements. Le mal est dénoncé, mais la liberté des humains est respectée. Le choix de mettre un roi à la tête de la nation est mauvais parce qu'il part simplement du fait que le peuple d'Israël veut faire comme les païens voisins. Nous ne pouvons pas simplement chercher à faire comme les autres lorsque nous avons le privilège de faire partie du peuple de Dieu. Nous avons un rôle à jouer dans la société. Nous sommes appelés à poser les signes du royaume de Dieu dont parle Jésus. Dieu a un projet de restauration de la création. Dieu règne. C'est par la lecture de sa parole que nous découvrons sa volonté et ce qui est bien pour nous, notre famille, notre Église et notre société. Amen.